France Culture, avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le troisième épisode, l'exil comme lieu des révélations. En janvier 1939, pour fuir la répression franquiste, Maria Zambrano quitte l'Espagne, son pays natal, pendant 45 longues années. Elle ne revient à Madrid qu'en 1984, le 20 novembre, 9 ans jour pour jour après la mort du général Franco. C'est donc la moitié de sa vie qu'elle passe en exil, un exil qui est devenu pour elle comme une patrie. Si elle ne souhaite à personne de vivre l'exil, Maria Zambrano a choisi de faire corps avec le sien et s'est refusée à nourrir de la rancœur, car il a été aussi pour elle le lieu de révélation, notamment philosophique et spirituelle. Sans cette expérience vécue de l'exil, son œuvre n'aurait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Pour parler de la question de l'exil dans la pensée de Maria Zambrano, j'ai le plaisir d'accueillir Eve Giustiniani. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en études hispaniques à l'université Aix-Marseille. Votre thèse de doctorat retrace la biographie intellectuelle du philosophe José Ortega y Gasset durant son exil. Mais vos recherches portent aujourd'hui sur l'ensemble de l'exil antifranquiste espagnol et notamment sur l'exil de Maria Zambrano.
Porque he estado muchas veces para volver.
J'ai plusieurs fois été sur le point de revenir en Espagne. Mais j'ai toujours fait marche arrière, ou bien se sont produits des événements qui m'ont empêché de le faire. Disons des obstacles. Cette fois, je n'ai senti aucun obstacle. J'ai senti un appel. Je suis revenue en Espagne, j'ai honte de le dire, pour l'embrasser. Et la fin de la vie, puisque je dois mourir comme tout le monde, la fin de la vie renvoie à une expression très connue. Mourir à Madrid.
On vient d'entendre une archive de Maria Zambrano datant du 11 septembre 1985. C'est la première interview qu'elle donne depuis son retour d'exil. Maria Zambrano parle d'obstacles qui ont contrarié à plusieurs reprises son retour. De quel obstacle parle-t-elle, Eve Giustiniani?
Sans doute, avant tout, je pense des obstacles de nature politique. Puisqu'évidemment, jusqu'à la mort du dictateur, il n'était pas question pour elle de rentrer, étant foncièrement opposée à tout totalitarisme. Et après la mort de celui-ci, la transition politique a été bien longue avant qu'elle puisse estimer que, je pense, les conditions étaient pleinement réunies pour qu'elle puisse rentrer. Et puis ensuite, je pense qu'il y avait une maturation personnelle qui n'était pas encore tout à fait aboutie.
Oui, et peut-être aussi pour des raisons économiques, matérielles et la maladie. On sait qu'elle était très malade vers la fin de sa vie.
Évidemment.
Comme vous l'avez dit, elle s'est toujours refusée à revenir en Espagne du vivant de Franco, mais elle met toutefois presque 10 ans à revenir après la mort du dictateur en 1975. Alors pourquoi avoir finalement renoncé à son exil qu'elle dit littéralement « aimer » si l'on reprend le titre d'un texte datant de 1989, « Amo mi exilio »,« J'aime mon exil ».
Alors, pourquoi met-elle autant de temps à rentrer après la mort du dictateur? Effectivement, je pense qu'il y a cette sorte de maturation, c'est-à-dire ce renoncement à l'exil qui a été, elle dit, pour elle comme une patrie. Il ne faudrait pas se méprendre sur le sens qu'elle met derrière ce mot patrie, on pourra peut-être en reparler. Mais elle dit quand même qu'elle y renonce, finalement, et qu'elle elle retourne sur sa terre pour y mourir. Il y a quand même, je pense, une proche conscience de la mort, et elle a perdu sa sœur auparavant. Et je pense qu'il y a là aussi un facteur déclenchant dans sa volonté de rentrer, certainement. Et puis, l'Espagne a changé quand même en presque 10 ans, entre l'Espagne de 1975 et l'Espagne de 1985, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Même si on est encore, si l'Espagne est encore aux prises avec un passé qui ne passe pas, il a fallu quand même un temps pour qu'elle considère qu'il était temps pour elle de revenir.
Et d'ailleurs, dans ce même texte, « J'aime mon exil » que je viens de citer, Maria Zambrano écrit « J'ai renoncé à mon exil, mais je ne l'oublie pas pour autant, car ce serait comme nier une part de mon histoire et de notre histoire ». Ce que Maria Zambrano soulève ici, c'est la question de la mémoire historique. Elle appartient au camp des vaincus et refuse de faire fi de son expérience de l'exil. Mais le contexte de son retour d'exil, il a changé. Ce sont les années 1980 et cela correspond en Espagne à la période dite de transition démocratique. La logique de réconciliation nationale qui suit la dictature franquiste n'implique-t-elle pas de faire table rase du passé, justement, Eve Giustiniani?
Oui, alors justement, C'est vraiment, vous mettez le doigt dessus, cette transition démocratique, elle a eu comme condition cette réconciliation nationale. Je pense que c'était vraiment nécessaire à l'époque, puisque ce que l'on redoutait le plus, c'était une sorte de retour de la guerre civile, et donc rouvrir les blessures du passé, supposer une grande violence politique. Et c'était ce que l'on craignait le plus. Sachant que Franco avait bâti ses 40 ans de règne, pour ainsi dire, sur l'ostracisation des vaincus, on ne voulait pas d'une épuration qui, à l'inverse, bannirait les ex-vainqueurs. Donc on a fait ce choix de réconciliation nationale et d'une double amnistie. Donc elle a été d'abord réclamée par les communistes et par la gauche, l'opposition anti-franquiste, qui voulait sortir des prisons franquistes les opposants, qui serait le futur personnel politique de la démocratie. Mais cela supposait aussi l'amnistie réciproque des criminels de guerre et des responsables de la répression politique franquiste. C'est donc en 1977 que cette loi d'amnistie est votée, qui est une sorte de loi de point final, qui, aujourd'hui encore, exclut tout procès des crimes du franquisme. Donc, on renonce explicitement, au moment de la mort de Franco, à regarder vers le passé pour construire la société de l'avenir. Or, le retour des exilés, il pose un problème dans cette société-là, puisqu'ils incarnent explicitement, justement, le passé, l'Espagne républicaine de 1931, ce passé qui ne passe pas. Ils réclament des comptes envers cette dictature qui leur a imposé ces décennies d'exil. Et ils ont donc une présence extrêmement gênante. Donc c'est le paradoxe qu'ils incarnent. Ils incarnent cette mémoire, mais en même temps, leur retour signifie aussi, d'une certaine façon, le symbole de cette réconciliation nationale.
Et Maria Zambrano, justement, pense que seule la conscience historique permet de se libérer de ce passé qui ne passe pas.
Alors, tout à fait, c'est-à-dire que ce n'est pas évidemment, pour ainsi dire, en cachant le cadavre derrière la porte du placard qu'on va s'en débarrasser, mais c'est bien évidemment en ouvrant ces blessures et en comprenant les causes qui ont mené à cette tragédie historique que l'on pourra évidemment s'en libérer, éviter d'en reproduire une autre similaire à l'avenir. Nier le passé, en aucun cas, ne permet de l'expier. Mais le problème est que à ce moment-là, on préfère regarder ailleurs et surtout, on considère que, disons qu'il y a un nouveau récit de la guerre civile et de la dictature franquiste qui s'instaure à partir du moment de la transition, qui est basé sur l'idée d'équidistance, c'est-à-dire que tous les Espagnols sont à parts égales responsables de la guerre civile, comme c'est une guerre fratricide, tous coupables. Les franquistes autant que les républicains et tous victimes. Donc cette commémoration, voilà, cette réconciliation nationale, elle a pour corollaire cette culpabilité partagée et donc plus personne n'est coupable et plus personne ne peut être poursuivi.
Et justement, dans un tel contexte, lorsqu'elle revient d'exil, Maria Zambrano reçoit des prix mettant à l'honneur son œuvre, une bourse financière, des signes de reconnaissance académique. Pensez-vous que son retour ait pu faire l'objet d'une instrumentalisation au sens où justement elle représenterait une figure de la réconciliation des mémoires après la guerre et la dictature ?
Alors, non seulement Zambrano, qu'on considère à ce moment-là comme la dernière exilée, il y a El País qui titre au moment de son retour, le retour de la dernière exilée, mais en fait depuis, il y a toute une séquence, hein, depuis une dizaine d'années, les premiers grands retours là en 75-76 sont vraiment salués dans la presse de façon complètement unanime comme des actes de réconciliation nationale, et les exilés eux-mêmes se prêtent au jeu en disant qu'ils viennent en signe de paix et ils viennent œuvrer pour la réconciliation. Et cela, en fait, a été... Alors, instrumentalisé, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas, cela a été vraiment récupéré, ou en tout cas mis à profit par le discours médiatique dominant, parce que ça coïncidait tout à fait avec cette logique de réconciliation nationale, et ça venait légitimer ce nouveau récit national qui allait vraiment renforcer cette voie politique qui était choisie de la réforme et de la continuité, et venir donner aussi de la stabilité politique au régime monarchiste que Franco avait mis quand même... Enfin, Franco a mis le roi sur le trône. Donc, le fait que des exilés républicains rentrent en Espagne et finissent par adouber cette monarchie, c'était quand même la légitimation historique, culturelle, symbolique, philosophique, ultime, qui permettait effectivement d'homologuer le régime sur tous les plans. Donc oui, effectivement, d'une certaine façon, on peut considérer que le retour de Zambrano, comme celui d'autres grands exilés significatifs de 1939, a d'une certaine façon été instrumentalisé ou été récupéré politiquement. Oui.
Nous avons délibérément commencé par la fin, à savoir son retour d'exil, mais si l'on revient 45 ans en arrière, c'est le 25 janvier 1939, jour de la capitulation de Barcelone, que Maria Zambrano prend le chemin de l'exil. Elle passe la frontière française, comme plus de 450 000 personnes entre janvier et mi-février 1939. C'est la retirada, ou retraite en français. Eve Giustiniani, une fois la frontière traversée, pourquoi Maria Zambrano fait-elle le choix de l'Amérique centrale et latine ?
Alors, c'est le choix de beaucoup d'entre eux, ceux pour le moins qui en ont la possibilité. Beaucoup de ces exilés qui ont fui l'Espagne à pied par la frontière pyrénéenne vont rester en France. Tous ceux qui en auront la possibilité vont fuir en bateau, notamment par Marseille ou par la côte atlantique, vers notamment le Mexique, qui était un des rares pays au monde qui avait soutenu la Seconde République et dont le président...
Lázaro Cárdenas,
qui était donc, on va dire progressiste, avait largement ouvert ses portes aux réfugiés républicains en leur offrant notamment la nationalité mexicaine.
Et Maria Zambrano, elle garde la nationalité espagnole.
Elle garde la nationalité espagnole, mais il n'en demeure pas moins que, on va dire, il y a une politique d'accueil qui constitue évidemment un appel d'air. Il y a évidemment aussi, dans ce choix de nombreux exilés espagnols de se diriger vers l'Amérique latine, une question de maîtrise de la langue, qui facilite évidemment les processus d'intégration. Souvent, c'est notamment le cas pour les intellectuels comme Maria Zambrano. Ils avaient auparavant voyagé dans divers pays d'Amérique latine. Donc, ils avaient déjà un certain nombre de contacts, des réseaux, notamment dans des universités ou vis-à-vis de certaines revues qui allaient leur permettre un petit peu au moins de vivoter ou de trouver certaines sources de subsistance sans éviter de trop grandes difficultés financières, mais dans le cas de Zambrano, ça n'a pas empêché que son parcours d'exil soit quand même ponctué de nombreuses étapes et pas du tout stable. Alors pourquoi elle n'a pas renoncé à la nationalité ? Je pense qu'effectivement là il y a quelque chose de très viscéral en elle dans son attachement à l'Espagne.
L'Espagne, elle les a dans ses entrailles et tout au long de son exil, Maria Zambrano, grâce notamment à la langue, continue à enseigner, à collaborer à des revues avec d'autres exilés républicains, à donner des conférences et surtout à écrire ses œuvres. Et si elle a dû partir de l'Espagne sans sa bibliothèque, elle ramènera absolument tous ses livres, tous ses cahiers, et ils sont nombreux. Et donc si elle a autant écrit en exil, est-ce que ce n'est pas parce qu'il coïncide aussi avec le moment où elle se défait de la tutelle de son maître, José Ortega y Gasset ?
Alors oui, moi c'est une hypothèse que j'aimais. Peut-être c'est vrai qu'elle a écrit très peu d'ouvrages avant la guerre. Elle était aussi bien sûr plus jeune, mais quelque part peut-être qu'effectivement l'exil a permis de hâter ce parricide symbolique intellectuel qu'il fallait faire pour prendre son émancipation philosophique. Le fait d'avoir dû laisser effectivement tous ses livres lui a imposé de devoir les citer de mémoire et donc de prendre certaines libertés avec l'œuvre du maître.
D'autant plus qu'il est parti plutôt qu'elle en exil.
En plus, Ortega fait partie de ceux qu'on appelle les exilés de 1936,
oui.
qui ont déclaré qu'ils n'étaient ni d'un camp ni de l'autre. Or, on sait ce que ce ni droite ni gauche souvent veut dire et ce qui lui a bien entendu été très longuement reproché par les exilés de 1939. Donc il a été un petit peu considéré comme un traître à la cause républicaine et pour cela très longuement rejeté. Et d'ailleurs, dans l'autre camp, on le rejetait tout autant parce qu'on le considérait encore comme un républicain. Donc Ortega a été longuement ostracisé et puis ça a peut-être hâté aussi du côté de Zambrano cette émancipation intellectuelle et lui a permis de développer sa propre philosophie, effectivement, quelque part à la faveur, si je puis dire, de l'exil.
Cet exil de presque un demi-siècle n'est pas entièrement tragique pour Maria Zambrano. En effet, il a aussi été un lieu de révélation, notamment philosophique et spirituelle. Je vous propose à présent d'écouter un texte tiré de L'Exilé, publié en 1990 dans Los Bienaventurados.
D'expatriement en expatriement, dans chacun d'eux, l'exilé meurt peu à peu, se dépossédant, se déracinant. Et ainsi, il se met en chemin. Il réitère sa sortie du lieu initial, hors de sa patrie et de chaque patrie possible, se donnant parfois le prétexte de fuir la séduction d'une patrie qu'on lui offre, courant devant son ombre tentatrice. Alors inévitablement, il est accusé de cela, de s'en aller sans avoir ne serait-ce qu'où aller. Puisque le lieu d'où fuit le promis à l'exil, marqué désormais par lui depuis lors, c'est un « où », un lieu qui serait le sien. Et il ne peut rester que là où il peut agoniser librement, se berçant sur la mer qui revit, n'être éveillé que quand l'amour qui l'emplit le lui permet, dans la solitude et la liberté.
France Culture, avoir raison avec Maria Zambrano. Carla Michel.
Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ne pourrait-on pas identifier une première révélation rendue possible par l'expérience de l'exil, à savoir que la figure de l'exilé nous apprend quelque chose de la condition humaine, Eve Giustiniani?
Ah oui, je pense que vraiment pour Zambrano, la condition exilique est véritablement une métaphore de la condition existentielle. C'est-à-dire que l'exilé est jeté dans l'exil, comme on est jeté dans l'existence, on est comme un nouveau-né, nu, jeté dans la vie. L'exilé est jeté en exil et il est aussi dépourvu de protection que peut l'être un nouveau-né face à l'existence. Elle dit dans un autre texte qui s'appelle de 1961, Lettre sur l'exil, elle dit il est à la fois comme nu, comme un nouveau-né dans une cave, et donc prêt à vivre, et à la fois comme prêt à mourir, comme se jetant face au désert. Donc il est vraiment face à une espèce de monde hostile, sans protection aucune, et bien voué à se rencontrer lui-même finalement dans ce dénuement extrême. Donc l'exil, c'est vraiment cette déprise, cette dépossession de tout ce dont on croyait que cela nous constituait.
Et on a aussi l'idée que où qu'aille l'exilé, de patrie en patrie, il erre. Qu'est-ce que cela nous dit? Que l'être humain est un être errant, qu'il est perdu dans l'univers?
Alors oui, il y a une sorte d'errance métaphysique peut-être. Il y a une condition nomade certainement, mais bon, ça c'est à prendre au sens, là je pense au sens métaphorique. Et quand elle écrit ce texte, elle a vraiment déjà dans sa philosophie, comment dire, elle a déjà développé la raison poétique. Et elle n'en parle plus d'un point de vue théorique, en l'opposant à une raison scientifico-instrumentale, en essayant de justifier l'exercice de la raison poétique. Elle ne s'embarrasse plus de la justifier ou de la légitimer, mais elle la pratique, c'est-à-dire qu'elle écrit d'une façon pleinement poétique, pleinement métaphorique. Et là, je pense qu'on est vraiment dans ce type d'écriture. Donc oui, c'est un être errant, l'exilé, mais comme nous errons tous dans l'existence, à la recherche en quête perpétuelle, à la recherche de sens. Je pense que c'est ça que moi j'aimerais voir dedans. Et quand je lis ces textes, je les lis davantage comme je lirais de la poésie, finalement, que comme je lirais de Wittgenstein, quoi.
Et pourquoi Maria Zambrano ne considère-t-elle pas pour autant ce déracinement progressif de l'exilé comme une perte ?
Alors, elle parle de perte, elle parle de dénuement, elle parle de dépeçage, c'est-à-dire, elle dit on m'a dépecé, comme Saint-Barthélemy, on m'a ôté la peau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les couches de l'être, toutes les couches superficielles, tout, on se dépouille, on se déprend, alors il y a vraiment toute une série de termes et qui font référence à tout ce dont on peut, tous nos oripeaux externes, mais aussi vraiment tout ce dont on croit que cela nous constitue. Quand elle parle de la peau, c'est vraiment quelque chose d'intime et qui nous constitue. Donc on est vraiment à la recherche de quelque chose d'extrêmement profond. J'ose là pas non plus dire d'une essence, parce que finalement, c'est pas une essence qui serait fixe et déterminée, puisque c'est une essence errante par nature, c'est une essence en devenir. Mais
oui, car pour elle, se déraciner, c'est sortir aussi de l'illusion qui consiste à croire qu'on a une identité, une essence.
Tout à fait. Dans ce sens-là, c'est vraiment l'exil, c'est une déterritorialisation. Et c'est pour ça que quand elle dit l'exil est une patrie, ça pourrait prêter à confusion, puisqu'on pourrait, on pourrait réinvestir voilà, cette idée de patrie, de ces idées de racines avec un sens erroné. Non, vraiment, l'exil, c'est une déprise et c'est la patrie de celui qui n'a pas de patrie.
Oui, mais alors voilà, de quelle patrie parle-t-elle alors? Puisqu'elle dit l'exil m'a été comme une patrie, ou encore l'exil est le lieu privilégié pour que la patrie se découvre. Mais de quelle patrie parle-t-elle?
Là, je pense que c'est la patrie de l'être véritable. C'est une patrie éthique.
Spirituelle.
Spirituelle, peut-être. Peut-être mystique même, puisqu'il y a quand même cette veine et cette quête qui affleure dans sa philosophie dernière, même s'il y a vraiment une continuité. Il n'y a pas de phase à proprement parler ou de période dans la philosophie de Zambrano, je crois. Mais c'est cette nature de l'homme qui se révèle, enfin de l'être humain, pardon, qui se révèle justement quand tout ce qui est superfétatoire et tout ce qui est illusoire lui est ôté. Et c'est là que l'homme se révèle pleinement humain. Donc c'est ça, je pense, cette patrie dont elle parle et qu'elle atteint justement dans l'exil, puisque dans l'exil, comme déterritorialisation, on est forcé, on est contraint à ce dépouillement total et absolu.
Et donc ce qu'elle a à l'horizon, c'est peut-être une patrie inatteignable par définition, mais c'est celle des apatrides, ceux qui sont sans patrie et qui finalement renoncent à en trouver une.
Je crois qu'à à ce moment-là, ça ne se définit plus en termes politiques, éthiques peut-être au mieux. Enfin, ce serait vraiment quelque chose de l'ordre de l'humanisme, c'est-à-dire effectivement, c'est une patrie des, c'est une communauté plus qu'une patrie ou c'est une fraternité ou une communauté d'êtres humains qui se découvrent cette essence commune et qui va bien au-delà de la question de frontières, de nationalité, de coutumes, de traditions et d'histoire.
C'est peut-être aussi pour cela que sa lecture de l'exil n'est pas seulement philosophique mais aussi spirituelle et mystique, c'est un terme que vous avez employé. Et justement, Evjoutine Nani, est-ce pour cela que Marian Zambrano écrit que c'est avant tout être croyant qu'être exilé? Quel rapport entre l'expérience mystique et l'expérience de l'exil?
Alors là, j'avoue que pour moi, c'est une question plus délicate, que j'ai eu plus de réticence à creuser, mais je pense qu'il faut quand même une certaine foi pour tenir face à cette adversité extrême. Et cette foi en l'humain, moi je le lis comme comme peut-être l'athée que je suis, mais être athée n'empêche pas d'avoir une certaine foi. Et cette croyance, pour moi, cette croyance en l'homme, elle a bien sûr des racines et une culture chrétienne qu'elle explore hein, dans son œuvre et dont elle explore évidemment le retentissement pour l'Espagne. Mais bon, malheureusement, je suis pas sûre de pouvoir vraiment, voilà.
Et on retrouve en tout cas des métaphores, des images qui sont liées à son affinité pour la religion, le mysticisme. Je pense par exemple quand vous avez parlé du fait que l'exilé est comme ce nouveau-né qui se retrouve nu, vulnérable, jeté dans la vie. Elle dit qu'il se retrouve en exil, jeté dans le désert, comme s'il traversait un désert. Mm-hmm. Et justement, pourquoi au milieu de cet immense désert qu'est l'exil, pour reprendre l'une de ces images, les îles, comme Cuba et Porto Rico, où elle s'est rendue, sont pour elle une patrie prénatale. Est-ce que cela signifie que c'est un lieu de renaissance pour elle?
Oui, il y a sans doute quelque chose du... On recommence à zéro, et cette nouvelle vie, cette chance de repartir. Pour moi, l'exil, c'est aussi en tant que déterritorialisation, il offre C'est incommodant de le dire parce que le destin de l'exilé, il est toujours tragique. Mais il y a une possibilité de résilience dans l'exil. Et je pense que le parcours de Zambrano, il en est un exemple.
Oui, c'est assez ambivalent parce qu'à la fois, plein de douleurs, elle a eu du mal, elle a accepté d'y renoncer. Mais en même temps, on sent que quand 45 ans de sa vie, c'est beaucoup. Et elle a du mal à y renoncer. Elle l'a aimé, elle lui doit beaucoup. C'est aussi là où, on l'a dit, elle a commencé à beaucoup écrire. Ça a été un lieu de révélation. Donc oui, il y a une forme d'ambivalence. Et vous parliez de résilience.
Oui, je pense qu'elle, comme beaucoup d'autres philosophes espagnols exilés, n'aurait certainement pas écrit autant, n'aurait certainement pas eu une œuvre aussi féconde s'il ne s'était pas exilé, finalement. L'exil, quelque part, pour certains d'entre eux, a été une chance d'émancipation et de sortie de leur propre conditionnement et du coup, de révélation d'eux-mêmes, de révélation à eux-mêmes. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, c'était une sorte de nouvelle naissance, oui, dans ce sens-là, sans doute.
Merci beaucoup, Eve Giustiniani. Les références de vos travaux sont indiquées sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci également à Géraldine Sageman qui, toute cette semaine, prête sa voix à Marian Zambrano. Cette émission a été réalisée par Julie Béressi avec à la prise de son Marie-Claire Oumabadi. Thank you.